Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Nous sommes à la Cité des Sciences à l'occasion des journées Innovation et Santé. Nous sommes réunis autour de cette table pour parler d'un sujet en plein bouleversement, prothèses, implants, biomatériaux, comment réparer l'humain. La tentation de réparer le corps humain et d'en remplacer les pièces abîmées ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité, on utilisait des fils de suture et on remplaçait par des prothèses en bois les pieds ou les jambes amputées. On a même retrouvé des implants dentaires en métal dans des nécropoles gallo-romaines. Heureusement, on a fait quelques progrès depuis l'Antiquité. Les 70 dernières années, particulièrement, ont vu le début des greffes d'organes, reins, foie, cœur, et l'implantation de prothèses à l'intérieur même du corps, les prothèses de hanches notamment. Aujourd'hui, de nouveaux matériaux permettent d'aller encore plus loin dans la réparation du corps en fabriquant des prothèses mieux tolérées par l'organisme et à durée de vie plus longue. Autre enjeu dont vont nous parler nos invités, l'ingénierie tissulaire. On ne se contente plus de poser des matériaux inertes, bien au contraire, on conçoit des matériaux qui stimulent la régénération des tissus. Voilà pour le programme chargé. Pour nous en parler aujourd'hui, donc, j'accueille mes quatre invités. Didier Letourneur, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes docteur en chimie, ingénieur en biomatériaux et vous dirigez à Paris le laboratoire biomatériaux, ingénierie tissulaire, prothèses et réparation d'organes. Vous êtes également président de l'Association française des biomatériaux. Hélène Reveyron, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes docteur en matériaux céramiques et vous travaillez à Lyon au laboratoire MATEIS, matériaux, ingénierie et sciences. Vous êtes spécialiste des céramiques de nouvelle génération et vous avez mis au point une prothèse intervertébrale mobile destinée à remplacer les disques lombaires usés. Philippe Laval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biochimiste, spécialiste des biomatériaux et vous dirigez le laboratoire biomatériaux et bio-ingénierie à l'INSERM. Vous êtes spécialisé dans les domaines de l'otorhinolaryngologie, du vasculaire et du dentaire. Et monsieur Bertin. Non, enfin Véronique Migonnet, on a un invité qui vient d'arriver.
Bonjour.
Véronique Migonnet, bonjour. Vous êtes chimiste et vous dirigez le laboratoire chimie, structure, propriété des biomatériaux et agents thérapeutiques, où vous développez des matériaux mieux tolérés par l'organisme.
Tout à fait.
Enfin, monsieur François Bertin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien thoracique et cardiovasculaire au Centre hospitalier universitaire de Limoges. Vous avez créé avec un industriel limougeot, Iceram, une prothèse de sternum, un dispositif qui n'existait pas jusqu'à présent, d'après ce que j'ai compris.
C'est tout à fait ça.
Voilà. Alors, peut-être pour commencer, j'aimerais qu'on explique un peu mieux ce terme de biomatériaux. Parce qu'on ne parle pas forcément de matériaux écologiques ou même de matériaux de nature biologique. C'est quoi un biomatériau, Didier Letourneur ?
Oui, ben, effectivement, le nom pourrait prêter à confusion avec le début du mot bio. Le matériau biomatériau n'est pas forcément un matériau biologique. L'idée est du matériau implanté dans l'organisme. Et donc, c'est comme ça qu'il a été conçu et développé. Donc, le matériau à usage biomédical est un biomatériau de façon générale, qu'il soit naturel ou synthétique.
D'accord. Alors, les céramiques ont aujourd'hui le vent en poupe dans de nombreuses applications. Ça peut paraître assez étonnant car la céramique est plutôt synonyme de fragilité. Hélène Reveyron, vous travaillez sur une prothèse destinée à remplacer les disques lombaires. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et à quels objectifs cette prothèse répond ?
Oui, oui. Donc c'est vrai que les céramiques, quand on pense aux céramiques, on pense à la fragilité de ces matériaux. Et c'est parce qu'on connaît les céramiques classiques, les céramiques traditionnelles, une assiette, quand on la casse, c'est très facile. Aujourd'hui, on est capable de synthétiser de nouveaux matériaux céramiques, des céramiques composites, donc notamment à base des zircones, qui donc ont une résistance mécanique très élevée, une ténacité très élevée. Donc on peut donc vraiment avoir des céramiques avec certains défauts et donc ça ne va pas nuire aux propriétés du matériau. Et avec un comportement plastique, un peu comme les matériaux métalliques. Donc ceci nous permet d'implanter ce type de matériaux dans le corps. Donc la céramique est inerte, avec une très bonne propriété des résistances mécaniques. Pas des débris, Donc, par exemple, dans les prothèses, ça ceci est important. La production des débris est quelque chose qu'on veut éviter. Et donc, avec une durée de vie le plus important, des 60 ans, au moins 60 ans, ce qui nous permet d'éviter toute post-opération ou remplacement des prothèses actuelles. Donc,
c'est vraiment un des enjeux des prothèses aujourd'hui.
C'est vraiment une innovation et c'est vraiment au niveau de. On est au prototype, donc c'est vraiment pour.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots peut-être de cette prothèse-là qui est quand même assez aussi révolutionnaire, une prothèse.
Donc, ça, c'est une prothèse intervertébrale mobile. Ça veut dire qu'on va remplacer ce qu'on appelle la fusion. Donc, l'opération classique chirurgicale aujourd'hui, je ne suis pas chirurgienne ou médecin, mais donc où on vient remplacer le disque intervertébral on perce les deux vertèbres, on implante une plaque, etc., par une nouvelle prothèse en deux parties, donc qui permet donc aux patients donc de retrouver la mobilité de la colonne comme avant. Donc on n'a pas des vis, on n'a pas des fusions des vertèbres et donc on évite les problèmes de sous-chargement ou chargement des disques adjacents où là le disque intervertébral a été remplacé.
D'accord.
Donc c'est assez révolutionnaire puisque c'est en céramique. Et ce qu'on a vu, c'est donc 60 ans de durée de vie et c'est un risque de fracture.
Oui, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en plus, les gens avaient des problèmes lombaires de plus en plus tôt. Dès 40 ans, on pouvait envisager la pose d'une prothèse.
On parle de 80% de la population de plus de 50 ans ont des problèmes lombaires dus aux dégénérescences des disques intervertébraux. Donc ça nous concerne tous. Et ça concerne aussi, c'est un enjeu de santé, puisque les arrêts de travail et les dépenses sont aussi importantes.
Parfait, je vous remercie. François Bertin, vous êtes chirurgien, vous êtes sur le terrain, donc vous passez votre temps à opérer des patients. Et vous êtes pourtant à l'origine de la création d'une prothèse de sternum, fabriquée elle aussi à partir de céramique nouvelle génération, c'est bien ça, hein.
En effet, c'est une céramique poreuse à base d'alumine. Tout le principe, c'est d'arriver à ce que l'os s'ostéo-intègre dedans et donc qu'il continue à s'articuler en même temps.
S'ostéo-intègre, je ne suis pas sûr.
C'est que l'os pénètre la céramique parce que la céramique, elle est poreuse comme une biscotte en fait. Donc c'est plein de petits pores qui sont tous en contact les uns avec les autres et donc l'os va rentrer dedans et va s'intégrer totalement.
Du coup, la prothèse s'intègre mieux en fait au corps et est mieux tolérée aussi, j'imagine.
Le corps va réhabiter cette prothèse.
D'accord. Alors peut-être, pourquoi le sternum ? J'ai cru comprendre que...
Le sternum, c'est parce que c'est ma zone de travail. Moi, je suis chirurgien thoracique, donc l'os qui me posait un vrai problème et pour lequel on n'avait pas de solution avant, si ce n'est du ciment ou du titane, qui ont des risques infectieux importants, c'est l'os de prédilection, ce que j'ai développé, c'est vraiment le sternum. Mais dans cette société-là, on met ce type de matériaux-là au niveau de la cheville, au niveau du fémur. Ben, y a d'autres endroits du corps où c'est implanté les orthopédistes.
Ouais. Alors, le sternum, en deux mots, vous me disiez, soit en post-opératoire après une opération cardiaque, soit pour des enfants qui naissent sans sternum.
Il y a trois indications. Il y a d'abord la chirurgie de la tumeur. Il y a des gens qui ont des métastases ou des tumeurs primitives de ce sternum-là. Donc c'est l'os qu'on a en avant du corps qui nous tient les côtes. Il y a après tout le post-opératoire de chirurgie cardiaque où il y a un pourcentage important, entre 2 et 3% des gens qui s'infectent pour lesquels il faut refaire le sternum. Il y a également ce qu'on appelle une agénésie, donc les enfants qui naissent sans sternum. Il faut alors mettre un sternum plus petit, bien évidemment, pour qu'ils puissent après se développer correctement leur cage thoracique.
Oui, donc c'est vraiment un marché important. Et vous avez bossé avec un industriel
Limoges. Tout à fait,
qui est assez original.
Oui, parce qu'à Limoges, on a la chance d'avoir le pôle céramique européen. Et effectivement, on se connaît, on se côtoie et on travaille ensemble sur d'autres projets. Donc effectivement, il y a eu un partenariat tout à fait cohérent entre l'industriel et le CHU.
D'accord. Et dernière chose, il me semble que ces prothèses à terme pourraient avoir d'autres applications. Vous me parliez
le caractère poreux de ces céramiques permet d'imaginer, et on le fait actuellement sur l'animal, de charger en médicaments, donc de mettre des médicaments donc, ou bien des antibiotiques ou bien des antitumoraux au sein même de la prothèse.
D'accord.
C'est tout le caractère poreux qui permet effectivement de délivrer du médicament sur un temps.
D'accord. Philippe Laval, vous, je ne sais pas si vous travaillez sur des céramiques. En tout cas, on a parlé ensemble de deux projets d'implants en particulier. Un diaphragme pour les enfants et un larynx en titane. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de ces deux projets et puis quels sont les enjeux derrière ?
Oui, tout à fait. Alors, les deux projets ne sont pas du tout au même stade de maturation, je dirais. Les implants de diaphragme pour enfants sont vraiment, on est vraiment au tout début, c'est-à-dire que les cliniciens viennent d'identifier en fait la problématique et le fait qu'il n'y ait pas de prothèse actuellement qui fonctionne. C'est notamment, il faudrait une prothèse qui puisse évoluer avec l'enfant pour pas changer tous les deux ans l'implant.
Le problème de ces enfants, leur diagramme. Donc c'est
des enfants qui naissent avec un défaut au niveau du diaphragme ou avec une absence de diaphragme. Donc il y a une opération qui est faite dès leur naissance en général. Et cet implant qui est utilisé actuellement, c'est des implants qui ne sont pas spécifiques pour les enfants. Donc ils ne vont pas évoluer en taille avec la croissance de l'enfant. Et donc à terme, au bout de deux ans, généralement, il faut changer cet implant ou même c'est suite à une rupture de l'attache de l'implant qu'il faut intervenir.
Oui, donc c'est plutôt lourd, quoi. Oui.
Donc c'est très lourd comme chirurgie et puis c'est très récurrent puisqu'il faut opérer tous les deux ans. Donc l'idée, c'est d'avoir un implant qui s'étire, qui suive la croissance de l'enfant sur plusieurs années. D'accord. Donc là, on est vraiment au tout début de l'histoire. Alors que pour le deuxième cas que vous avez cité, donc les implants de larynx et de trachée, c'est quelque chose qui a commencé il y a plus de 10 ans. Donc grâce au professeur Debris à l'hôpital de Strasbourg. Et donc avec lui, on a développé cet implant, ce larynx artificiel. C'est également un implant qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solution. Donc suite à un cancer du larynx ou de la trachée, les patients se retrouvent avec une trachéotomie. Donc il n'y a aucun implant qui se substitue finalement à ces organes. Et donc on a développé un larynx artificiel et une trachée. Et les premières implantations chez l'homme ont eu lieu en 2013. Donc la solution va sortir sur le marché, si tout va bien, d'ici un an.
D'accord. Alors, il me semble que, encore une fois, en préparant cette émission, vous m'aviez dit au départ, on pensait faire un larynx en silicone, qui semble se rapprocher peut-être plus des matériaux, enfin, de la résistance des matériaux qu'on a dans le corps. Et finalement, vous avez opté pour le titane.
Oui.
Donc c'est plutôt étonnant. Le titane paraît rigide comme ça,
oui,
à la base.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour la partie... Pour la partie larynx, il s'agit d'une valve, donc là, il n'y a pas vraiment de problème mécanique. Par contre, pour la partie trachée, donc, qui est le tube en fait, par lequel l'air passe, au début, on était parti plutôt sur des implants souples. Et puis finalement, on s'est rapidement aperçu que dès que cet implant risque de collapser ou de se comprimer, bien sûr, le pronostic vital est engagé. Donc finalement, la solution d'un tube rigide était beaucoup plus évidente pour aller sur au niveau réglementaire, pour aller sur un implant rapidement qui puisse aller sur le marché. Et cette rigidité n'est pas un problème, hein, puisqu'on a notre trachée naturellement est faite de cartilage relativement rigide. Donc la rigidité n'est pas un problème et elle assure surtout, elle évite la collapse de l'implant et donc évite d'obstruer le passage de l'air.
Pour terminer avec ce larynx, vous me disiez que cette idée d'utiliser le titane était née d'une rencontre assez étonnante.
Oui, tout à fait. Oui. C'est donc un tube en titane poreux. Poreux, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour que le tissu puisse s'intégrer au matériau, pour qu'il y ait vraiment un système mixte en fait, entre le matériau et le tissu du patient qui a recolonisé le matériau. Et donc, cette histoire de titane poreux est venue de la rencontre entre un chirurgien et puis un ingénieur de l'aérospatiale. Cet ingénieur travaillait sur du titane poreux pour l'aviation. D'accord. Et donc la rencontre a fait que finalement ils l'ont utilisé pour le médical.
D'accord, oui, c'est vraiment étonnant. Véronique Migonnet, vous, votre obsession depuis plus de 30 ans, j'ai cru comprendre, c'est la chimie de surface.
Oui.
Alors, dans le domaine des prothèses, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que vous cherchez à faire?
Alors, pendant très longtemps, on a pensé que quand on mettait effectivement un matériau dans le système vivant, un biomatériau pour pallier une déficience d'un organe, on pensait que le mieux, c'était d'avoir un matériau inerte. En fait, aucun matériau n'est vraiment inerte. Il y a toujours une réponse de l'hôte. Et le but de tout ce que je fais depuis effectivement 35 ans maintenant, c'est d'essayer de contrôler cette réponse de l'hôte en modifiant la surface d'implants qui existent et qui ont les bonnes propriétés mécanique, mais de...
Donc vous travaillez sur des prothèses existantes et vous cherchez à les améliorer, c'est ça?
Voilà, donc je vais vous parler des deux derniers, des dernières prothèses sur lesquelles je travaille, c'est le ligament croisé du genou et la prothèse de hanche. D'accord. Et dans les deux cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de modifier la surface pour greffer des polymères dits bioactifs qui portent des fonctions chimiques qui permettent de leurrer le système vivant et de faire croire qu'effectivement c'est un système biologique. Et donc on va avoir une réponse protéique, cellulaire et tissulaire qui va être une réponse appropriée. On va avoir une bio-intégration de ces prothèses dans les tissus.
D'accord, donc il n'y a pas de phénomène de rejet, c'est ça?
C'est voilà, vraiment c'est vrai que le rejet, ce n'est pas exactement ça, mais c'est
non,
vrai que
pardon.
C'est... Non, mais si on veut schématiser, c'est effectivement empêcher un rejet de la part du système vivant. Et donc, d'accord, on a une parfaite intégration dans les tissus, avec des tissus qui sont fonctionnels comme l'est un tissu sain.
D'accord, donc ça peut être développé sur n'importe quel type de prothèse à terme.
C'est vrai que dans le temps, effectivement, on a fait ce greffage sur des polymères, sur des tubulures, sur des polymères pour des implants, intraoculaires, pardon, sur les ligaments qui sont en polymère, et aussi sur le titane. Et dernièrement, on a démarré un greffage sur du corail, et donc on s'aperçoit qu'avec la chimie, on peut réussir à fonctionnaliser une surface, quelle qu'elle soit, avec un polymère qui portent des fonctions chimiques qui sont très prometteuses pour le contrôle de la réponse biologique.
D'accord. Et il y a même éventuellement un système de... Enfin, on va en parler après de toute façon, mais il suscite la régénération des tissus alentours, c'est ça également ? Enfin, il y a ce côté
alors,
un peu actif.
Oui. Premièrement, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'effectivement, on a une parfaite réponse protéique cellulaire et tissulaire, donc on a un tissu qui se reforme, et à l'avenir effectivement l'idéal c'est d'avoir cette structure bioactive qui permet une bonne réponse tissulaire mais qui se régénère par disparition de l'implant, donc un implant d'accord. biodégradable oui, qui en même temps a cette bioactivité.
D'accord, c'est une piste, d'accord.
Voilà.
Donc, on l'a compris, mieux intégrer les implants dans l'organisme et éviter au maximum les réponses négatives du corps humain. C'est l'un des gros enjeux de ces implants, de ces biomatériaux. Mais il y a aussi un vrai sujet autour de la régénération tissulaire que vous venez d'aborder rapidement. Cette démarche est relativement nouvelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit, Didier Le Tourneur ?
Oui, donc...
Je crois que la régénération osseuse, notamment, est l'une de vos spécialités, enfin l'un de vos soucis.
Je m'intéresse beaucoup au système vasculaire, mais effectivement, les applications, quelquefois, sont dans différents domaines, et en particulier dans le domaine osseux. Donc effectivement, pour reprendre tous les exemples dont on vient d'écouter, dans les minutes qui viennent de se passer, on parle d'implant de prothèse, c'est-à-dire qu'on a mis à la place de... Donc on met un matériau le plus adapté possible, et c'est typiquement tous les biomatériaux actuels dans tous les types d'organes qui sont utilisés. Les améliorations sont, on vient de l'entendre, on structure mieux le matériau, on structure sa surface, on structure sa porosité pour favoriser la régénération spontanée. Donc dans tous les cas, et donc ce qu'on est en train de développer, les nouvelles générations de biomatériaux sont des matériaux qui vont s'intégrer mieux, de façon plus fiable, à plus long terme, et à avoir une meilleure intégration dans ce matériau pour des performances améliorées, des durées de vie améliorées, une dégradation, une biocompatibilité améliorée. Donc on est dans la catégorie d'implants ou de prothèses. Prothèse, ça veut dire on place à la place d'eux. Donc on fait ces matériaux. Aller plus loin dans la régénération, c'est effectivement utiliser ce concept de régénération. On régénère continuellement nos organes, nos vaisseaux, nos os, etc. Et c'est ce processus de réparation qui est utilisé dans les prothèses. Mais si on peut continuer un petit peu plus à éliminer ce matériau et le remplacer continuellement par un processus de régénération, on va régénérer complètement un organe. Et là, on utilise le concept et les terminologies d'ingénierie tissulaire. Donc on va utiliser la régénération des tissus et des organes de façon à la favoriser et avoir un remplacement complet du matériau, sa disparition complète et donc la régénération d'organes. Et là, ça ouvre d'autres domaines. On ne peut pas pour l'instant régénérer un cœur. On remplace un cœur par un matériau. Et donc si on veut faire la même chose pour le foie ou d'autres organes, la peau, il est impossible de mettre un matériau à la place de la peau. Et donc si on veut régénérer de la peau, l'application des grands brûlés par exemple ou de tout un tas de cancers, il est indispensable d'utiliser les processus de régénération et d'aller vers le côté biologique. Parce que pour l'instant, on a implanté des matériaux synthétiques ou naturels, dans un corps humain en essayant de favoriser leur intégration, leur disparition, leur réaction. Mais là, si on veut réellement régénérer, et l'exemple de la peau est un bon exemple, si on veut régénérer de la peau, on va avoir besoin de constituants biologiques naturels, les processus de régénération. Et on est dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, de la régénération des tissus.
D'accord. C'est notamment le cas, enfin, c'est pour éviter à terme les transplantations notamment. Qui
oui,
sont quand même très
risquées. Et répondre à des besoins. Si vraiment on veut remplacer de la peau, il faut mettre les éléments de la peau, c'est-à-dire des éléments biologiques et cellulaires.
Donc,
pour l'instant, il n'y a pas
d'autre moyen. On prélève des cellules, c'est ça, qu'on fait pousser, qu'on
classiquement,
fait.
Classiquement, un grand brûlé. On prélève quelques cellules, quelques lambeaux de peau restants. On espère qu'il
reste de son propre corps.
Ouais. On les envoie alors, soit dans des systèmes hospitaliers, soit dans des systèmes industriels. On multiplie ces cellules et donc les cellules se divisant de façon exponentielle, on peut obtenir de la peau en plus grande quantité qui va être ensuite réimplantée. D'accord. Et pour l'instant, c'est la seule technique. Et sinon, le patient meurt.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut espérer faire ? Parce que là, vous parlez de la peau. Apparemment, oui. On le fait déjà un petit
peu. On le fait déjà. On le fait. Et ça a été des développements assez récents, des développements technologiques, des développements industriels. Et ça permet effectivement de sauver de nombreux patients.
Mais je crois comprendre qu'on pourrait... Enfin, quel genre d'organes, à terme, on pourrait imaginer faire pousser comme ça ?
Le foie est un bon exemple. On le sait depuis l'Antiquité, régénération du foie. Tout le monde sait que le foie se régénère, mais on ne sait pas remplacer un foie. Donc, utilisons ce processus de régénération tissulaire pour favoriser, donner les conditions qui devraient permettre la régénération du foie. C'est à l'étude, ça en est pour l'instant qu'à des phases de recherche, mais c'est typiquement le genre d'organe sur lequel on pourrait aller. Le cœur sera encore plus compliqué, le cerveau sera...
Ouais. C'est des organes vitaux, donc là pour le coup, les enjeux sont... D'accord. Philippe Laval, il me semble que vous m'aviez parlé de... vaisseaux sanguins aussi, de régénération des vaisseaux sanguins, on n'avait pas un problème sur... Je suis en train de me tromper dans mes notes.
C'est plutôt Didier, hein, je pense.
Bon, bah alors, on oublie tout de suite les vaisseaux sanguins.
Mais c'est un sujet très intéressant, effectivement, la régénération des tissus. Pour remplacer des vaisseaux sanguins, on utilise des prothèses, donc des biomatériaux synthétiques depuis une cinquantaine d'années. Il y a vraiment des limitations. Si on a en particulier besoin de tout petits vaisseaux, on est limité. On n'a pas de biomatériaux qui existent, de prothèses qui existent. Et donc, il faut concevoir des matériaux qui vont permettre d'implanter ces nouveaux vaisseaux. Et des objets d'études et de recherche importants.
Très bien. Alors, un autre enjeu dans le domaine des prothèses, il me semble, c'est... tout ce qui est personnalisé, médecine personnalisée, prothèse personnalisée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, et Hélène Reveyron ?
Ça rejoint un peu le sujet. Donc, si on parle des tissus, on peut parler aussi de l'os. On peut imaginer des prothèses donc, où le matériau à développer, ça serait qu'un tuteur, qu'un support des cellules du patient. Donc, pour tout ce qui est complément osseux, substitut osseux. Et dans ce cas-là, donc la prothèse, la géométrie de la prothèse de ce tuteur est faite selon les dimensions du patient. Et puis, il y a toute l'ingénierie tissulaire qui viendra derrière. Donc, le matériau, il faut qu'il soit bioactif, en tout cas biodégradable, qui soit dégradé au cours de la régénération, que ça soit tissulaire ou de l'os, et donc qui laisse place au tissu.
D'accord. Du passé. Non, mais je pensais même aux prothèses qui n'ont pas forcément vocation à se dégrader. Il me semble, François Bertin, il me semble qu'on avait parlé justement de sur-mesure, qu'on allait de plus en plus vers du sur-mesure.
Oui, tout à fait. C'est le cas du sternum. Tous les gens n'ont pas, on n'a pas tous le même gabarit. Donc le sternum, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est fait sur la mesure du patient à partir de ces données du scanner. Et comme l'évolution du cancer, parce que sur de la pathologie cancéreuse du sternum, on les opère après un certain délai de conception qui est quand même relativement modeste, c'est 3 semaines pour mettre au point cette pièce opératoire. On a de toute façon en réserve des pièces qui font 10 à 20% plus grandes ou plus petites pour pouvoir l'adapter à la personne. Mais vraiment, la conception du sternum, elle est faite sur mesure du patient, quoi.
D'accord. Ouais. Donc ça c'est vraiment l'avenir. On avait parlé aussi éventuellement de...
Alors, il y a également d'autres
perforations dans le crâne,
d'autres applications. Ouais. C'est effectivement, de plus en plus, on est amené... Alors, c'est pas le chirurgien thoracique, c'est les neurochirurgiens qui sont amenés à enlever des calottes de crâne, des parties de crâne. Et après ça, pour pouvoir le remettre, ou bien ils l'implantent dans l'abdomen pour le garder stérile, ou bien ils le mettent dans des conditions. Mais on peut, à partir de la calotte qu'ils ont enlevée, refaire la même pièce et la redonner pour une fermeture qui se fait généralement 3 à 4 mois après.
D'accord. Donc c'est des choses qui se pratiquent déjà aujourd'hui. Il faut comprendre que c'était vraiment aussi l'avenir des prothèses que de faire du sur-mesure.
Absolument. Mais c'est l'avenir, mais c'est l'avenir actuel. Quoi.
Oui, c'est déjà en cours. D'accord. Voilà, je vais y arriver. Qu'on s'intéresse un tout petit peu à la façon dont vous travaillez tous. J'ai cru comprendre que si le domaine faisait des progrès depuis plusieurs années, donc c'est grâce évidemment au saut technologique, mais c'est aussi grâce au décloisonnement entre les disciplines. tout le monde se parle un peu mieux et un peu plus. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu tout ça, Philippe Laval?
Alors, c'est lié au domaine des biomatériaux par nature, hein, comme on l'a expliqué. Il y a bio et matériaux, donc forcément, il y a des gens qui vont concevoir les matériaux. Donc, ça peut être des physiciens, des chimistes. Et puis, à côté, il y a des biologistes et des cliniciens qui vont tester le matériau, lui donner des propriétés biologiques. Donc, je dirais, il y a quelques années, les disciplines étaient plutôt cloisonnées. On avait d'un côté les physiciens et de l'autre les biologistes. Et puis, tout doucement, avec l'émergence justement des biomatériaux et de la science des biomatériaux, il y a eu en effet un petit peu une fusion des deux compétences. Et on voit de plus en plus de personnes qui ont la double compétence. Donc, c'est vraiment décloisonné, je pense, à ce niveau-là, en effet.
D'accord. Vous, il me semble que vous avez une démarche assez originale, parce que vous avez... Vous faites d'un côté de la recherche fondamentale pure,
oui.
Et de l'autre côté, vraiment, vous êtes dans l'appliqué. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ça?
Alors, je pense que c'est également lié un petit peu au domaine des biomatériaux, c'est-à-dire que forcément, on a des idées de projets ou des projets qui sont amenés directement par les cliniciens qui ont un problème bien concret. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, le diaphragme chez le nouveau-né, c'est un problème qui nous a été amené par les chirurgiens. Et puis en parallèle, on peut avoir également des projets, on va concevoir des matériaux sans avoir déjà l'application. Donc ça peut être très fondamental à la base. On ne sait pas encore pourquoi ils vont être destinés. On sait qu'on va leur donner des propriétés innovantes et qui vont pouvoir être utilisées plus tard. C'est à plus long terme, mais ça reste encore très fondamental. Donc on a les deux approches, une approche très appliquée et une approche plus fondamentale.
Oui, on voit que de toute façon, ce dialogue effectivement avec les praticiens est fructueux, puisqu'on a vu l'exemple avec la prothèse de sternum. Les industriels sont des maillons importants de la chaîne aussi et développent avec les chercheurs des produits commercialisables à terme. Sans eux, donc, pas de prothèses pour les patients. Pourtant, la réglementation concernant les prothèses est assez stricte, voire de plus en plus stricte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Véronique Migonnet ?
Oui, effectivement, dans les domaines dans lesquels je travaille et les applications les plus récentes, c'est le ligament et la prothèse de hanche. C'est vrai que je travaille avec deux industriels depuis 15 ans. Et effectivement, on s'aperçoit que les industriels veulent proposer des prothèses de plus en plus performantes. Mais on a cette réglementation qui est nécessaire, et heureusement qu'elle est nécessaire, mais elle pose des problèmes à certaines entreprises, notamment des TPE, qui ont beaucoup
donc
de mal
à pouvoir...
très petites entreprises qui ont beaucoup de mal à, effectivement, à pouvoir suivre cette réglementation. Et je pense qu'il n'y a pas seulement les toutes petites qui vont avoir des problèmes. Et quand on discute avec eux, ils sont vraiment en ce moment dans la tourmente, parce qu'ils doivent multiplier les tests pour être aux normes réglementaires qui sont de plus en plus strictes.
J'ai cru comprendre d'ailleurs, monsieur Le Tourneur, que tant que les prothèses étaient vraiment des matériaux totalement inertes, un bout de métal, finalement ça allait, mais c'est depuis qu'on a fait des progrès et qu'on intègre aussi un tout petit peu de biologique, qu'elles sont plus composites, que finalement ça s'est compliqué.
Voilà, la caractérisation du matériau de départ va être beaucoup plus compliquée, parce que des processus vont faire que, comme on vient de l'évoquer, il va y avoir de la porosité, il va y avoir des traitements de surface, donc il va y avoir des natures hybrides, des matériaux de différentes compositions, donc on n'est plus effectivement à l'implantation de matériaux tout simple en seule matière, et donc la réponse tissulaire, la caractérisation et les performances vont être aussi beaucoup plus compliquées. Et puis dans certains cas, on va essayer, on l'a dit, avoir la disparition du matériau, donc ça amène à d'autres questions, où que devient le matériau, que deviennent les produits de dégradation, et donc on n'est plus à se dire on a un matériau inerte, il ne bougera pas, et je vous assure qu'il ne bougera pas. On va se demander que va devenir la porosité, va-t-elle être remplie, comblée par quelque chose, si le produit se dégrade, les produits de dégradation, les produits d'usure, où vont-ils? Et donc c'est des vraies questions, et c'est pour ça qu'il y a effectivement de plus en plus de tests, parce que les matériaux sont aussi de plus en plus compliqués pour répondre à des applications de plus en plus larges. Et vu comme on va vers d'autres applications ou d'autres performances, on va vers des matériaux qui sont de plus en plus compliqués et donc qui nécessitent des tests plus compliqués. Ouais. Et donc, effectivement, il faut s'armer de compétences, de moyens humains, de moyens financiers qui vont permettre de développer.
Oui, au niveau réglementaire, on n'a peut-être pas encore complètement rattrapé la...
Il faut faut avoir une adéquation entre les connaissances, les capacités de validation de ces matériaux et la réglementation qui va permettre d'assurer la safety ces processus.
Mais c'est complexe, en effet, oui. On voyait que le domaine des prothèses était pluridisciplinaire par nature. Est-ce que la formation des étudiants est à la hauteur des besoins des laboratoires ? Philippe Laval, peut-être, sur cette question ?
Oui. Alors, je pense qu'il y a une évolution qui est en train de s'opérer pas mal dans les universités, les écoles d'ingénieurs. On voit de plus en plus de formations dans les écoles d'ingénieurs matériaux. Il y a de plus en plus la composante biologie qui intervient, alors que c'était quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, on voit qu'il y a quand même une évolution. Elle est peut-être probablement pas assez rapide, mais en tout cas, elle est en train de se passer pour former des gens des matériaux à la biologie et inversement des gens de la biologie aux matériaux.
Oui, parce que jusqu'à présent, finalement, peut-être d'ailleurs tous plus ou moins autour de cette table, vous avez du coup des cursus parallèles, multiples, vous êtes formés à plusieurs disciplines.
Mmh. Tout à fait.
Il me semble, je ne sais pas, vous, Philippe Laval, par exemple.
Oui, moi, j'ai commencé avec plutôt l'aspect biologie, biochimie, et après, j'ai fait de la physico-chimie. Donc, c'est mon cursus qui a fait que j'ai touché à toutes les disciplines, mais finalement... Il y a encore quelques années, il n'y avait pas la double compétence possible dans une seule formation.
Bien sûr, oui. Donc ça, c'est des choses qui évoluent aujourd'hui et les formations commencent un petit peu à se créer. Bon, écoutez, on voit que ce domaine est vraiment riche et qu'il va se passer beaucoup de choses encore dans les années qui viennent. Enfin, alors là, pour le coup, faire pousser des organes, j'ai hâte de voir ça. Mais je vais peut-être vous laisser la parole à tous pour un dernier petit tour de table, pour que vous me disiez un mot de conclusion, un espoir, un point que vous aimeriez souligner. Hélène, puisque vous êtes à côté de moi.
D'accord. Donc, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que si on a vu les développements qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est grâce à cette recherche partenariale et avec multidisciplinaire, si je veux dire. Nous, dans nos cas, on a beaucoup travaillé avec l'Europe, donc dans le cadre des projets européens. Donc la prothèse dont je parle, c'est issu d'un projet européen qui s'appelle Elon Life, où vraiment on s'est servi de des physiciens, des chimistes, des biologistes, des médecins, de toutes les compétences pour pouvoir développer un tel objet. Et donc si je veux un mot pour la fin, j'ai salué vraiment l'initiative du ministère de réaliser ces premières journées nationales de l'innovation en santé. J'y crois beaucoup à la vulgarisation et j'apprends beaucoup, notamment du public et des enfants. J'ai la chance d'avoir une fille qui a 7 ans maintenant et donc avec ses copines, je pose toujours des questions, ils ont des idées et qui parfois nous échappent. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ce contact aujourd'hui et de pouvoir le partager. Donc je suis chercheur. Donc j'apprécie cette...
De sortir du laboratoire aussi.
De sortir du laboratoire, vraiment, vous avez tout compris.
D'accord, merci. Monsieur Laval.
Oui, peut-être tout d'abord une note d'optimisme en disant en effet que tout ce côté innovation est forcément passionnant pour nous aussi qui sommes dans les laboratoires. On est assez aidé pour aller pour créer des entreprises, pour développer des nouvelles choses. Par contre, la marche pour aller jusqu'au marché, jusqu'au produit final est très longue. Et là, je serais un petit peu moins optimiste en disant que justement, c'est des phases qui sont beaucoup plus compliquées pour lever des fonds et pour aller jusqu'au produit final. Et également par les aspects réglementaires dont on a parlé, qui sont forcément très compliqués. Et notamment en France, qui se durcissent et donc qui poussent finalement l'innovation au bout d'un moment, à se déplacer à l'étranger. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être là-dessus qu'il faudrait avoir une réflexion.
La réglementation, globale
la réglementation est bien, mais après, voilà, c'est un frein également à l'innovation.
D'accord. Véronique Migonnet, un petit mot pour la fin.
J'adhère totalement à ce que vient de dire Philippe, mais effectivement, du coup, pour être un peu plus pragmatique, on se dit que les implants qui existent actuellement, ils ont quand même permis des progrès absolument énormes et une amélioration de la vie des patients. Le futur, c'est effectivement la médecine régénérative, mais l'intermédiaire, c'est effectivement d'utiliser un matériau, d'essayer d'améliorer sa réponse biologique pour éviter le rejet. Et c'est sur ce...
Oui, en attendant de faire pousser les organes, il faut quand même qu'on appareille les gens et qu'on leur...
Donc on a ça, ouais. Et puis la biodégradabilité qui est effectivement une étape clé entre le merveilleux et ce qui existe aujourd'hui. D'accord. Et ce que je voulais aussi juste ajouter, c'est que c'est vrai que la formation est vraiment très très importante et... J'ai en tout cas la chance avec Didier d'avoir eu un DEA du biomatériau qui a été mis en place il y a très très longtemps et qui perdure maintenant en formant des étudiants qui qu'ils soient physiciens, chimistes, biologistes, et qui permettent de leur donner une culture très pluridisciplinaire et ils permettent de comprendre effectivement ces enjeux qui soient de surface, de réponse biologique, de messages cellulaires. Et donc on est des êtres un petit peu hybrides, si on peut dire.
Oui, c'est compliqué.
Voilà.
Monsieur François Bertin.
Donc je voudrais insister sur le caractère multidisciplinaire de ce qui permet actuellement d'aboutir à ces recherches-là. Le sternum, il est vraiment né d'un comité scientifique qui était au départ axé sur tout ce qui était les problèmes d'orthopédie. Et au sein de ce comité scientifique, j'étais un petit peu la personne un peu naïve. Et c'est vraiment en discutant avec les orthopédistes que j'ai pu m'intéresser à cette reconstruction de cet os-là. Donc c'est vraiment le fait de se retrouver ensemble entre chercheurs, cliniciens et de différentes disciplines qui permettent de faire aboutir à des idées originales. Quoi. C'est vraiment ça ce qui m'a plu dans cette démarche-là depuis les 5 dernières années.
D'ailleurs, c'est tellement efficace qu'il me semble que le sternum va bientôt être... la prothèse de sternum sera bientôt commercialisée.
Il y a eu déjà 3 implantations de fait. Oui, il y a trois personnes qui se baladent avec ça dans la nature. Ils sont dans ma région, mais il n'y a pas de souci.
Ils s'en trouvent plutôt heureuses pour l'instant.
Oui, ils sont tout à fait heureux.
D'accord. Et, ouais. Bon, bah, monsieur Le Tourneur, alors, pour la fin, vraiment.
Donc, quelques mots à retenir. Effectivement, innovation en santé, c'est des mots importants. C'est déjà intéressant de combiner ces concepts. L'innovation en santé, ça veut dire on va innover. Pour développer tous les matériaux actuels qui sont déjà prodigieux et ceux qui vont venir, on a besoin d'une recherche forte, une recherche ouverte, une recherche multidisciplinaire, sans frein. Et ça, c'est un élément important. Pour aller vers les matériaux pour la santé, il faut développer les matériaux, il faut comprendre les processus physiques, biologiques qui vont être à l'origine de ces innovations. Et donc, il faut effectivement continuer à soutenir cette recherche et aller à l'inverse aussi vers le transfert, le côté translationnel et le transfert application de ces matériaux. En partenariat avec l'industrie, en développant des entreprises, en développant effectivement les dialogues entre les différents partenaires. Et c'est là qu'on avance sur des réelles innovations qui sont capables ensuite d'être transférées chez l'homme avec tout le parcours et toutes les connaissances qui ont été nécessaires. Donc il faut effectivement, pour promouvoir et améliorer cela, une recherche en amont très forte, mais aussi les moyens incitatifs, les formations nécessaires qui vont permettre ces transferts, ces communications, ces formations pluridisciplinaires, ces dialogues de plus en plus riches et nécessaires pour amener ces innovations jusqu'aux patients, avec des développements économiques qui peuvent être très importants et dont la France devrait effectivement être un leader. Et c'est important de le souligner, mais c'est effectivement...
On a la connaissance, on a les possibilités, on a
donc une base de recherche extraordinaire, on a le système de santé, de cliniciens très forts, on a quelques industriels, pas forcément peut-être suffisamment. C'est quelque chose à développer et à développer à tout niveau et sur du long terme, parce que s'impliquer dans la formation, c'est du long terme aussi, mais ça permettra d'avoir des futurs leaders en recherche, mais aussi dans l'industrie et pour développer des nouveaux matériaux sur notre territoire.
Bon, bah, très bien, je vous remercie. Merci à tous d'être venus, c'était très intéressant.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.